Louange et remerciement au Seigneur. Que devons-nous dire à ce sujet? Nous sommes heureux. Cette étoile qui s'est levée en Jacob a guidé le peuple de Dieu. Il avait lui-même les 7 étoiles dans sa main droite. Il a fait briller sa lumière dans les ténèbres. Nous avons entendu hier soir que Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Tout ce que Dieu avait à nous donner, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Nous l'avons suivi de Bethléem à Golgotha, en passant par Gethsémané. Nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle. Nous l'avons suivi et avons été transportés dans les lieux célestes par la foi en Jésus-Christ. Et nous le suivons dans ses voies jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons en qui nous croyons. Nous savons de qui nous avons entendu la voix et dont nous avons vu la lumière et la gloire. Nous l'avons souvent dit ici et là au cours des derniers jours qu'avec l'annonce de la parole est aussi descendue la gloire du Seigneur. Le Seigneur lui-même est né dans l'humilité à Bethléem, mais la gloire du Seigneur est apparue aux bergers dans les champs. Ils virent le surnaturel, puis ils virent ce qui était venu dans la chair. Les deux étaient le Seigneur et la gloire du Seigneur. Ils s'étaient dépouillés de tout ce qui constituait sa divinité. Il s'était fait homme pour nous racheter tous et nous ramener à lui. Qui peut passer à côté de cela? Personne à qui Dieu a parlé. Nous reconnaissons ce qui nous a été donné par la grâce de Dieu. Et comme Paul le dit ici dans le premier verset, tout de suite, 2 Corinthiens 3, verset 1, commençons-nous encore à nous recommander nous-mêmes? Non. Ou bien avons-nous besoin, comme certaines personnes, de lettres de recommandation pour vous ou de votre part? Non. Notre lettre de recommandation, c'est vous. Elle est écrite dans notre cœur. Elle est prise en compte et lue par le monde entier. C'est cela. Ce n'est pas seulement par la prédication des hommes de Dieu qu'elle est écrite dans le cœur des croyants, mais l'apôtre lui-même dit, elle est écrite dans notre cœur. Elle est prise en compte et lue par le monde entier. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous ne faisons pas que proclamer, mais que ce que nous proclamons est aussi dans notre cœur. Ce n'est pas une chose qui est seulement écrite quelque part, mais elle a été déposée et inscrite dans notre cœur. Avant de poursuivre ma traduction, je voudrais juste rappeler brièvement que nous avons entendu hier soir ce qui est vraiment important. Être sage au temps convenable et reconnaître l'heure de la visitation divine et de l'accomplissement de sa parole, tout abandonner et se mettre en route pour rencontrer le Seigneur. Et là, aucun chemin n'est trop long, aucun voyage n'est trop difficile, rien n'est si précieux que l'on puisse emporter pour le lui offrir. Et puis, en premier lieu, l'hommage. Puis, tout ce qui nous a été confié comme don. Mais même les dons spirituels et divins qui nous ont été confiés doivent toujours être mis à nouveau à la disposition du Seigneur afin qu'il les bénisse et les utilise pour un usage béni dans l'assemblée. Nous avons vu que sur terre, le Seigneur pouvait multiplier tout ce qui avait été simplement remis entre ses mains. Le garçon qui avait 5 pains dans une corbeille aurait peut-être pu nourrir 5 personnes ou quelques fois 5. Mais lorsque le pain a été placé dans la main du Seigneur, tout a été différent. À partir du moment où nous remettons entre les mains du Seigneur les choses que nous avons reçues, tout devient différent. Tout devient différent. Ce sont les mains bénies, les mains d'où ne peuvent jaillir que des bénédictions et de bons dons. C'est à ce moment-là que le miracle de Dieu a commencé à se produire. Et il en va de même pour nous ici. Nous pouvons venir et dire, oui, qu'avons-nous vraiment à apporter? Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grand-chose, c'est presque rien. Mais quand nous remettons cela entre les mains du Seigneur, nous nous étonnons de tout ce qui se passe. Et si quelqu'un s'avance et dit « Je n'ai rien à apporter », cela n'a pas d'importance. C'est le Seigneur qui donne ce qui doit être exprimé au bon moment, au temps convenable et à la bonne heure. Nous voulons tous devenir une bénédiction pour les autres. Et pour cela, il est nécessaire que Dieu nous bénisse. Il y a des choses qui sont des bénédictions et d'autres qui ne sont pas des bénédictions. Et si je faisais quelque chose dont j'entendrais dire qu'elle a été un scandale ou d'aucune bénédiction pour d'autres, je me garderais bien de refaire la même chose. Parfois, les croyants sont très bien intentionnés, très pieux, très sincères. Vérifiez si la bénédiction de Dieu est sur ce que vous dites et sur ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Il n'a pas besoin de rentrer complètement dans le contexte, mais juste pour vous montrer que l'on peut soi-même, et nous avons entendu hier soir parler du songe, selon lequel Dieu peut donner une directive en songe. Mais alors, une bénédiction de Dieu accompagnera ce songe divin. Si nous racontons un songe et que la bénédiction de Dieu n'accompagne pas ce songe et ce que nous racontons, taisez-vous et ne dites pas un mot à ce sujet, car Dieu n'est pas dans la chose. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a rêvé qu'un certain frère viendra à Krefeld et que c'est ici qu'il sera tué. Et c'est ici qu'il connaît très sa fin. Et ce frère se rend à l'assemblée et raconte son songe et sans surprise, on n'entend plus du tout parler de ce frère depuis on ne sait quand, jusqu'à ce qu'on apprenne à la fin qu'un frère pieux a fait un songe selon lequel si ce frère venait à Krefeld de telle ou telle manière, il serait tué. Et le contact est rompu et on se demande pourquoi. Je vous le dis ce matin, avant de raconter un songe, amenez-le ici. Que nous disions s'il est de Dieu ou non. Quel est l'intérêt de raconter des choses à droite et à gauche, de les dissimuler un peu ici, un peu et un peu là? Nous avons entendu dire, à visage découvert, sans couverture, annoncer tout librement. Je dois le dire, je dois le faire aussi. Il en va de même pour nous tous. Ou bien voulons-nous ici mesurer avec 2 mesures? Non, nous voulons mesurer avec 1 seule mesure. Et si quelqu'un a un peu trop mangé et a fait un songe étrange, nous le pardonnons mutuellement. Cela nous arrive à tous d'avoir un appétit tardif le soir et de rêver en conséquence. Ce n'est pas une erreur. Cela arrive à tous les hommes. Mais si quelque chose doit être annoncé comme un songe divin. Alors apportez-le, nous voulons d'abord l'écouter ici, nous voulons alors savoir de quoi il s'agit dans ce songe divin. Non pas pour dire ici, oui, la tante telle et telle a quelque chose à dire, qui provoque seulement du malheur et on dit oui, mais qu'est-ce qui a été de nouveau raconté? Avant que cela soit raconté, écoutons-le ici d'abord, apportez-le nous. Et ensuite, nous disons devant toute l'assemblée, ne l'ai-je pas déjà fait deux ou trois fois? Je ne vois pas de visage. De temps en temps, j'ai un songe et alors je l'ai raconté librement et ouvertement. C'est vrai ou pas? Je ne me suis pas promené en disant quelque part, j'ai fait un songe, je suppose ceci ou cela. Et je vais vous dire ceci. Aucun d'entre nous n'est assez spirituel pour pouvoir interpréter son propre songe. Il y a là un très grand danger. Pourquoi est-il écrit même avec le parlant en langue que deux ou trois parleront et qu'un seul donnera l'interprétation? 1 Corinthiens 14, 27. S'il y en a plusieurs, mais s'il y en a qu'un, il peut donner l'interprétation. Mais s'il y en a deux ou trois, il faut qu'il y ait un interprète et l'interprétation doit venir ensuite. Et s'il y a un songe vraiment spirituel, écrivez-le. Amenez-le ici et nous prierons à son sujet et demanderons à Dieu de nous aider. Et voici la lumière et le droit. Nous voulons voir si la lumière brille et de quoi il s'agit dans cette affaire. Et les gens voient des choses quelconques et on ne sait pas ce qui doit être fait et ce qui doit être entrepris. Et il y a de l'inquiétude parmi les gens lorsque de telles choses sont répandues. Quand j'ai entendu parler de ce songe où une personne est battue à mort, oui, on a l'impression d'être un criminel. Et les gens se promènent en disant, Dieu a révélé. Pas besoin de la révélation de Dieu pour cela. L'homme a mangé des poivrons ou d'autres choses. Et autre chose, il a ressenti les choses comme il les a ressenties. Il a fait du mal dans la maison de Dieu. Il a égaré des gens avec une bonne intention. Mais l'ennemi était derrière. En fait, frère Branham a eu le courage. Quand une sœur est venue le voir et lui a raconté son songe, il a dit, « Sœur, ton songe est tout à fait merveilleux, mais c'est Satan qui te l'a donné. » Et c'était bien sûr, c'était une chose, hein. Ma sœur, ton songe est tout à fait merveilleux, mais c'est Satan qui te l'a donné. Vous savez, quand nous sommes éveillés, nous pouvons encore avoir une certaine vue d'ensemble de la façon dont les choses se déroulent. Mais quand nous dormons, c'est notre subconscient et nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Veillons en tout temps et que Dieu veille sur nous. Est-ce bien ainsi, frères et sœurs, frères Rousse, est-ce bien cela que lorsque quelque chose est donné à quelqu'un et que vous avez l'impression que Dieu est dans la chose, parfois on sait tout de suite que Dieu n'est pas dedans. Dans ce cas, on n'a pas besoin de raconter un tel songe. On a honte d'en parler. Ce sont parfois les plus grandes bêtises qui se produisent. Mais si vous avez l'impression que Dieu vous a parlé à travers un songe et qu'il pourrait y avoir une bénédiction pour toute l'assemblée et ce serait le sens d'une chose, soit une instruction personnelle, soit une instruction quelconque pour d'autres ou pour tous, écrivez-le et apportez-le ici. Et nous vous disons et vous promettons que nous ne balayeront rien de la table, mais que nous lirons en ce lieu avec la crainte de Dieu, que nous prierons à ce sujet et que nous demanderons à Dieu de nous aider à voir correctement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est bien ainsi? Je pense que le Seigneur nous aidera tous. Nous n'entendrons alors plus parler de malentendu ou du fait que telle ou telle chose est dite et interprétée. Comme il est déjà écrit, personne ne doit interpréter l'Écriture de sa propre initiative. Et si c'est un songe de l'Esprit de Dieu, dans lequel n'apparaît pas clairement ou s'il ne révèle pas clairement ce dont il s'agit réellement, il doit être remis dans son sens par une révélation spirituelle. Comme je l'ai dit, parfois Dieu le Seigneur parle directement et on voit comme dans une vision, on entend une voix, on voit les choses, de quoi il s'agit. Parfois on ne voit que des images qui nécessitent alors une interprétation. Mais s'il vous plaît, interprétez pas vous-même. De même que personne ne peut interpréter lui-même les Écritures, de même personne ne peut interpréter lui-même un songe qui est de l'Esprit de Dieu, à moins que le Seigneur n'y ait clairement parlé et exprimé ce qu'il voulait dire. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Amenez-le ici et nous en parlerons. Que Dieu nous aide tous. Savez-vous que frère Branham a même eu parfois du mal à interpréter correctement des visions lorsque l'ange du Seigneur ne lui disait pas de quoi il s'agissait. Même une vision qui n'est pas suivie d'une inspiration de l'Esprit de Dieu et qui, dans les images qui sont montrées, donne un message de Dieu par l'inspiration, même avec cela, on pourrait encore faire du mal. Nous l'avons vu ici avec Pierre. Il a vu des animaux rampants, il a vu un drap de lin descendant du ciel avec toute la vermine et tout ce qui rampait à l'intérieur. Et il a dit, oui, qu'est-ce que je vais manger ici? Jamais je n'ai mangé quelque chose d'impur. Vous savez, les Juifs, c'était tout selon les lois, tout devait être pur, etc. Et le Seigneur a dit, ce que j'ai sanctifié, que tu ne le déclares pas impur. Et Dieu lui indiqua le chemin vers les païens. En agissant ainsi, il aurait encore pu causer du mal sans la directive divine. Ordonnons divinement les choses divines dans l'assemblée afin que rien d'autre que la bénédiction ne se manifeste ici. Je vous le dis, si je racontais un songe quelque part et que j'apprenais que je n'étais pas devenu une bénédiction, je fermerais ma bouche pour toujours. Savez-vous ce que Paul a dit? Il dit, si je suis la moindre offense pour quelqu'un, simplement parce que je mange la viande, je ne mangerai plus de viande pour l'éternité. Qui d'entre nous ferait cela en pensant à un steak, etc.? Est-ce que vous feriez cela? Qui ferait cela si rapidement parmi nous tous? Nous dirions à l'homme qu'il en finisse, qu'il ne soit pas si délicat. Paul avait un cœur de berger. Il s'agissait pour lui de faire en sorte que personne ne soit confus, que personne ne soit choqué d'une quelconque manière. Nous pouvons parfois nous montrer forts, puis nous utilisons le coude, et ce n'est pas non plus correct. La force de Dieu se manifeste dans notre capacité à servir les autres et à être une bénédiction pour eux. Non pas que nous nous regardions avec suffisance, c'est notre propre orgueil, mais ce n'est pas la force de Dieu. Nous devons être capables de discerner, et c'est ce qu'a dit frère Branham. Pardonnez-moi si je le mentionne ici plusieurs fois ce matin, cela ne m'arrive pas souvent, mais il a dit, examinez ce que vous faites pour voir si la bénédiction de Dieu repose vraiment dessus. Et si ce n'est pas le cas, n'y touchez pas. En fait, nous ne voulons tous rien d'autre que le divin, n'est-ce pas? Et si quelque chose nous tombe dessus, nous n'y pouvons rien. Nous sommes justement le théâtre entre ce qui se passe ici sur terre en termes de lumière et de ténèbres. Les deux sont efficaces, la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, le bien et le mal, nous le savons tous. Il n'y a pas d'homme ici-bas qui puisse dire « je ne suis que sous l'influence divine », toujours. Il y a des gens qui sont tellement pieux qu'ils disent « je ne suis que sous l'influence constante divine », sous l'influence divine, constamment. Et parfois, quand on rencontre de telles personnes, elles sont sous tout le reste, sauf sous l'influence divine, sauf qu'ils ne sont pas sous l'influence divine. Celui qui a des choses divines peut les dire librement et ouvertement. Elles peuvent être mises en lumière, reprises par la lumière, et elles sont en présence du Dieu Tout-Puissant et subsistent devant lui. Vous savez, spécialement quand frère Branham a parlé du premier, du deuxième et du troisième poule. Vous savez que le premier et le deuxième étaient assez clairs qu'ils étaient apparus. En ce qui concerne le troisième, il a fait quelques déclarations différentes et beaucoup de Jean se sont demandé ce que c'était. Le premier et le deuxième, d'abord le ministère évangélique et ensuite le ministère prophétique, ils pouvaient tous très bien les classer. Mais frère Branham lui-même devait dire, ça pourrait être ça et ça pourrait être ça concernant le troisième pôle. Mais il y avait des frères qui voulaient être beaucoup plus intelligents. Alors ils ont dit, non, c'est ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous devons pouvoir attendre de voir de quelle manière Dieu agit. Une fois quand un miracle s'est produit, il a dit maintenant, c'est déjà le tour du troisième pôle. Une autre fois, il a dit, ce sera la prédication aux perdus qui n'ont plus d'espérance de salut au dernier moment où il sera alors écrit, où il est écrit que celui qui est impur continue à être impur et que celui qui est saint se sanctifie encore plus et ainsi de suite, se sanctifie encore plus. Non, nous tous, nous n'avons absolument plus besoin d'interpréter quoi que ce soit. Il nous suffit de faire resplendir ici, à visage découvert, la gloire de Dieu. Et un rayonnement, de nouveau, vous savez ce que c'est. La gloire n'émane pas de nous, mais nous ne faisons que la rayonner à nouveau. Nous la reflétons. Elle nous frappe, elle vient sur nous et nous la rayonnons à nouveau. 2 Corinthiens 3, verset 18. Et la gloire du Seigneur est descendue là où se trouvaient des gens qui étaient prêts et qui attendaient la consolation d'Israël autrefois. Ils ont entendu la voix, ils ont vu la gloire, ils sont allés vers le Seigneur et l'ont adoré. La même chose se produit ici. Nous avons vu la gloire du Seigneur. Et si vous voulez savoir, la même chose que vous avez, que vous voyez sur la photo avec la face du Seigneur, c'est exactement la même chose que ce que les bergers ont vu dans les champs. C'est exactement la même chose que ce que le prophète Ézéchiel a vu quand il a dit, j'ai vu la gloire du Seigneur près du fleuve Kébar. C'est la même gloire du Seigneur, l'éclat de sa majesté qui l'entoure. C'est tout. C'est la gloire du Seigneur, visible à l'œil humain. Et alors nous voyons le Seigneur enveloppé et entouré de cette gloire dans laquelle il doit être enveloppé, car aucun homme ne peut en fait le voir ici dans notre chair. Nous devrions mourir. Parfois, nous avons l'impression d'être à la hauteur du Seigneur parce que nous le tutoyons. Mais je vous le dis, lorsque nous entrons vraiment dans la présence de Dieu, nous nous sentons tout autre. Nous nous rendons alors compte que c'est le même Dieu saint qui a toujours parlé à son peuple. Le fait que les choses aient maintenant changé par la grâce de Dieu et que nous ayons été rachetés ne change rien à la sainteté du Seigneur et à ce qu'il exige de nous tous. Vous savez, autrefois, les croyants se gardaient bien de dire une parole inutile. Ils avaient toujours à l'esprit ce qui, ils avaient toujours sous les yeux ce qui est écrit dans l'Écriture. À savoir que, qu'en ce jour-là, nous devrons rendre compte de toute parole inutile. Et on a beaucoup lu les lettres, dans les lettres, et on a pris à cœur les avertissements, les rappels à l'ordre. On ne prenait pas les choses à la légère, mais on prenait tout simplement au sérieux ce que la parole de Dieu disait dans ses épîtres. C'était une parole du Seigneur. On ne pouvait pas passer à côté. Je pense que parfois, malgré toutes les bénédictions de la parole du Seigneur, et la gloire qui est déjà descendue ici de différentes manières, nous prenons quand même les choses trop à la légère. Nous ne nous rendons pas toujours des comptes quand nous devrions le faire. Nous ne prenons pas assez précisément les choses dans notre propre vie, dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Et puis nous attristons l'Esprit de Dieu et nous nous demandons pourquoi les choses n'avancent pas ainsi. Ne cherchons pas la faute chez les autres. La faute est à trouver chez chacun d'entre nous. Mais nous venons ici pour nous incliner à nouveau devant Dieu et dire, Seigneur, aide-toi-même ton chemin avec nous. Parle-nous par ta sainte et précieuse parole. Aie pitié de nous, qu'un fleuve de bénédiction puisse se déverser. J'ai souvent dit qu'Abraham n'avait même pas besoin de prier pour obtenir la bénédiction. Il avait entendu la parole de la promesse et y avait cru. Et le Seigneur lui dit, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction. » Pourquoi? Il était en possession de la promesse. Et nous sommes la postérité d'Abraham par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons entendu la parole de la promesse divine en ce temps-là. Et nous avons vu, si l'on peut dire, la gloire du Seigneur. Nous avons reçu en nous ce qu'il avait à dire. Nous devrions pouvoir être une bénédiction pour les autres. Cela m'est allé droit au cœur. Hier, lorsque Frère Branham a dit qu'en Christ, il a été manifesté que c'était les œuvres divines. Et il a pu dire, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez au moins à cause des œuvres. Nous avons déjà entendu Nicodème, il pouvait dire, « Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais. » Soyez tout à fait honnête. Les gens nous croiront-ils sans que Dieu puisse témoigner, puisse rendre témoignage, qu'il puisse, sans que Dieu puisse être lui-même présent et ainsi confirmer sa parole? Les gens seront-ils en mesure de nous croire? Les apôtres ont pu écrire qu'ils ont établi l'obéissance parmi les païens et que Dieu lui-même a rendu témoignage par diverses sortes de signes, de miracles, d'actions de puissance et de dispensations du Saint-Esprit selon sa volonté. Paul écrit, lorsque des non-croyants entrent dans l'assemblée, que l'Esprit de Dieu agit et qu'une prophétie est prononcée, les pensées de son cœur sont révélées. Il tombe sur sa face et confesse que Dieu est au milieu de vous. Il y a de multiples façons et possibilités par lesquelles Dieu lui-même se manifeste comme présent dans l'assemblée. Et il ne sert à rien de se couvrir d'un manteau et de dire « Oui, le Seigneur Jésus » est partout, là où deux et trois disent qu'ils sont rassemblés en son nom. Il y a une grande différence entre le dire et la réalité. Il peut y avoir une très grande différence, car partout dans le monde, on se réfère à la même parole et on dit « Le Seigneur Jésus est au milieu de nous, car c'est ce qui est écrit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais les conditions qu'il a posées, personne n'y répond. Est-ce le seul verset d'un chapitre entier pour que nous devons lire ou il y a-t-il bien d'autres choses qui précèdent et qui suivent ce verset? Ce verset, nous pouvons tous l'extraire, il correspond à notre concept, nous sommes assez pieux pour l'intégrer, mais cela ne suffit pas. S'il est au milieu de nous, il peut aussi alors se manifester. Alors nous devons pouvoir arriver à ce qu'il puisse agir comme il a fait lorsqu'il a marché lui-même ici sur terre. N'êtes-vous pas d'avis que cela est possible avec Dieu? C'est possible avec Dieu. Et c'est pourquoi cela ne doit pas nous paraître impossible. Le prophète, ou Dieu s'adresse au prophète et lui dit, « Est-ce que cela devrait être impossible pour moi parce que cela te paraît impossible ?» Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et nous l'avons dit, l'Église du Seigneur est le lieu de manifestation du Dieu vivant, le lieu de rencontre, comme dans l'Ancien Testament. Ainsi, nous lisons que le Seigneur a rassemblé toutes les armées célestes sur la montagne de la rencontre et qu'elles sont venues devant sa face. Dieu a des saints dans le ciel, il a des saints sur la terre, il a des fils dans le ciel par création et des fils sur terre par engendrement. Il s'est créé un lieu ici-bas, une demeure, un lieu dans lequel il a fait sa demeure à la Pentecôte. C'était le jour, c'était l'heure où Dieu a fait sa demeure ici sur terre, le jour de la Pentecôte. Il dit, j'habiterai et je serai au milieu d'eux. Je marcherai, je serai leur Dieu et ils seront pour moi des fils et des filles. C'est pourtant ce qu'il avait dit et c'est ce qu'il a accompli. 2 Corinthiens 6, verset 16. Par la Pentecôte, par le baptême dans le Saint-Esprit ou avec le Saint-Esprit. Le mot baptême signifie en fait être plongé dans quelque chose. Immergé, plongé. Lorsque quelqu'un est baptisé dans l'eau, il est mouillé de haut en bas, il est plongé dans l'eau. Immergé, il est plongé. Si quelqu'un est baptisé dans l'Esprit de Dieu, alors il est baptisé dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alors il n'est plus là. Ce que l'on voit n'est plus que l'Esprit de Dieu. Il est recouvert, il est couvert et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. On ne voyait plus du tout l'homme. On ne voyait que l'Esprit de Dieu venir sur lui. Il était enveloppé et recouvert de l'Esprit de Dieu comme on baptise un homme. Et soudain, on ne le voit plus du tout. Il a disparu. Pourquoi ? Il n'est plus censé vivre. Il n'existe plus du tout. Le Christ doit vivre en maintenant. Christ doit pouvoir manifester sa vie en lui et à travers lui. Il en va de même pour l'homme qui est baptisé dans l'Esprit de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10 que le peuple d'Israël, ils étaient tous baptisés, c'est écrit, dans la nuée et dans la mer, 1 Corinthiens 10, 2. L'un était une référence au baptême de l'Esprit, l'autre une référence au baptême d'eau. Ils n'étaient pas seulement baptisés dans la mer, ils étaient baptisés dans la nuée et dans la mer. Il y avait les deux. Et que dit là? Et qu'est-ce qui est écrit à la fin? Dieu n'a pas pris plaisir à la plupart d'entre eux. Verset 5, 1 Corinthiens 10. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient suivre leur propre voie et qu'ils l'ont fait. Leurs pieds étaient terrestres, terrestrement peut-être encore sur le chemin du Seigneur. Mais leur cœur était déjà retourné en Égypte depuis longtemps. Et c'est là que réside la différence. Nous devons avoir les deux dans ce temps. Le baptême dans l'eau et le baptême dans l'Esprit. Le baptême dans l'eau pour conclure l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Et le baptême dans l'Esprit pour que cette alliance de bonne conscience soit confirmée par Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre moyen. Ou n'est-ce pas le cas? Dites-le franchement, ouf, une fois. Ce n'est pas possible autrement. Nous ne pouvons pas dire, oui Seigneur, nous sommes maintenant ici quelque chose de spécial. C'est peut-être tout, mais Dieu ne peut pas contourner sa propre parole. Nous devons suivre le droit chemin avec notre Dieu en ce temps. Et il sera nécessaire que nous ayons une faim et une soif dans notre cœur pour la justice qui vient de Dieu. Et alors, nous avons la promesse. Bénis ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. C'est ce que nous désirons tous, même ce matin. Vous savez que le Seigneur n'abat pas. Nous sommes déjà tous suffisamment abattus par toutes les choses de la vie quotidienne, par les circonstances et les contrariétés de ce monde tordu. Pourquoi est-il écrit que nous devons être rachetés de cette génération perverse et pervertie? On a du mal à le croire, mais si on y repense, ou si nos parents nous ont encore parlé des années passées, c'était ainsi. L'un était l'ami de l'autre. Chacun pouvait aider l'autre. Cela faisait partie de la continuité de la vie humaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons que dire, Seigneur, viens vite, reviens vite, mets fin à toutes ces choses et ramène-nous chez toi à la maison. Mais avant que tout cela n'arrive, Dieu veut se manifester encore une fois parmi son peuple de manière puissante. Et je vous le dis, nous avons besoin du baptême d'eau pour conclure l'alliance avec Dieu et nous avons besoin du baptême de l'Esprit pour confirmer cette alliance avec Dieu, pour que nous devenions des hommes qui reflètent la gloire de Dieu. Lorsque Dieu a conclu la première alliance, il est descendu lui-même avec toute sa gloire et il y avait des dizaines de milliers autour de lui. Le feu saint était là pour eux et il a prononcé sa parole et l'a donnée à son peuple. Lorsqu'il conclut la seconde alliance, le Seigneur Jésus dit, en effet, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Et vous savez que cela implique aussi non seulement la crucifixion, mais aussi la résurrection pour confirmer, car si le Seigneur Jésus était seulement mort, mais pas ressuscité, que prêcherions-nous aujourd'hui? Absolument rien. Nous n'aurions rien à dire. Sa résurrection a été le triomphe, a été la preuve qu'il était la vie et qu'il avait pris en lui l'aiguillon de la mort et qu'il avait accompli la victoire de Dieu ici-bas. Mais ensuite, il y eut encore ce qu'il a dit. Attendez à Jérusalem. Bien qu'auparavant, juste après sa résurrection, il ait soufflé sur ses disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'était quelque chose de puissant que le Seigneur disait là, et il pensait ce qu'il disait. Et pourtant, alors que les jours approchaient, il a dit, à la fin de ces 40 jours, attendez à Jérusalem. Les disciples auraient pu dire, Seigneur, ne nous as-tu pas donné toute l'autorité que nous avons besoin pour le service, pour le ministère? N'as-tu pas dit toi-même, n'as-tu pas soufflé sur nous et ne nous as-tu pas fait part de ta vie? Au commencement, le Seigneur Dieu a donné aux hommes le souffle de vie et maintenant le Seigneur a donné la vie spirituelle aux siens. Ici, le premier Adam, là, le deuxième Adam, là, la première création, ici, la deuxième création, les deux se superposent et s'entremêlent. Mais cela ne leur suffisait pas. Il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, afin que vous puissiez accomplir cette commission que vous avez reçue de moi par ma puissance et sous la conduite de mon Saint-Esprit. Une chose est l'ordre, la commission, et l'autre est la puissance nécessaire pour pouvoir accomplir cette commission reçue. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour toutes ces directives, pour tous ces chemins avec son peuple. Et nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous ne savons pas quelle sera la prochaine étape dans le royaume de Dieu, mais nous savons une chose, c'est que celui qui nous a placés ici nous guidera, nous conduira, sera avec nous parce que nous ne voulons et ne prévoyons absolument rien de personnel. Et si quelqu'un veut encore quelque chose de personnel, oubliez-le au plus vite. Cela ne mène qu'à la déception. Combien de personnes ont eu des projets personnels? Ils voulaient convertir le monde entier, ils voulaient convertir des villes entières. Et ils voulaient. Mais nous ne sommes pas, mais nous en sommes arrivés à demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton plan? Quelles sont tes intentions? Oui, nous voulons que toute cette ville soit sauvée, et ce pays, et tout le continent. Mais quand je pense au pays du bloc de l'Est, je dis, mon Dieu, tu leur dois d'entendre à nouveau la vraie parole de Dieu. Car ce qu'ils ont entendu n'était qu'un truc tordu d'un mythe romain qui n'a absolument rien à faire avec Dieu. Et avec la prédication de l'Évangile, les gens ont simplement été aveuglés et maintenus dans cet aveuglement. Nous n'avons rien à voir avec la politique, mais le communisme n'était qu'une contre-réaction du catholicisme. On a pourtant tous vu les choses telles qu'elles se sont passées. Le curé et le collier du village, c'était eux qui dirigeaient et tous les autres gens devaient obéir. Et on disait au peuple, de toute façon, vous ne savez pas lire, et si vous le pouviez, vous ne comprendriez même pas ce qui est écrit. C'est nous qui vous transmettons la compréhension, car le pape nous la transmet. Et c'était la réaction inverse à travers les générations et les générations. Parfois, je dis, mon Dieu, ne serait-il pas possible, ne serait-ce pas dans ta volonté que ces gens reçoivent une offre réelle de ta grâce? Qu'ils ne doivent pas seulement regarder cette chose et dire, oui, nous ne sommes pas aussi tordus que loin de là. Mais qu'ils reçoivent vraiment une offre réelle de la grâce, du message et du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si je savais que c'est la volonté de Dieu, je crierais jour et nuit jusqu'à ce que cela arrive. Mais on ne peut pas que déposer ces choses devant le Seigneur et lui dire, tu feras bien les choses, tu sais toutes choses et tu verras ce qui est à faire. Mais à nous, et si cela pouvait dépendre de nous, si seul Dieu pouvait donner son ordre, alors nous irons à Moscou et dirons, monsieur, ce qui vous a été dit ici n'était rien d'autre que de l'opium pour le peuple. Mais le vrai message de Dieu est ceci et cela. Et pour que vous sachiez qu'il en est ainsi, j'invoque maintenant le Dieu Tout-Puissant pour qu'il en témoigne lui-même ici devant vous tous. On a parfois l'impression que Dieu le doit à tous les peuples. Peut-être fera-t-il encore quelque chose, que sais-je. Peut-être que Dieu fera encore quelque chose à la fin pour permettre aux gens de cette génération de faire leur choix, de prendre leur décision. Dieu seul le sait. Nous ne le savons pas. Nous serions prêts à aller là où il nous envoie et à dire en toute humilité, mais en toute certitude, où en sont les choses. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est que le Seigneur puisse avoir son chemin avec nous tous. N'oubliez pas, à partir de cette heure matinale, d'examiner notre propre vie pour voir si ce que nous avons dit, quel que soit le terme utilisé, prophétie, songe et toutes sortes de choses, nous trouvons toujours les beaux mots pour décrire ce que nous disons aux autres. Examinons-nous pour savoir si cela est devenu une bénédiction ou si cela a été le contraire. Examinons, comme le dit la Bible, que chacun examine son œuvre et qu'ensuite il se glorifie. Mais alors il ne reste plus rien. Si nous examinons tous notre propre œuvre, qui se glorifiera? Qui veut alors se glorifier? Il ne reste plus rien. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous avons beaucoup à nous glorifier. Mais quand il s'agit de nos propres œuvres, nous rougissons. Parce qu'il n'y a rien à se glorifier. Mais il est aussi écrit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. À savoir que Dieu est miséricordieux et fidèle. Il est compatissant et d'une grande bonté. Il donne sa récompense à ceux qui le cherchent. Paul écrit en effet ici, nous l'avons entendu, il nous a rendus capables d'être des ministres de la Nouvelle Alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. La lettre tue, L'Esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, verset 6. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être ainsi vivifiés par l'Esprit de Dieu. Et si le Seigneur pouvait, d'une manière ou d'une autre, nous amener tous à ce point qu'il puisse nous rendre vivants, que nous puissions d'une part nous souvenir de l'alliance qu'il a conclue avec nous par Golgotha, que les promesses contenues dans cette alliance nous soient une fois de plus rappelées et que de notre côté, nous ayons en effet répondu à cette alliance en concluant avec Dieu l'alliance d'une bonne conscience, comme l'écrit Pierre, et que, d'autre part, la gloire du Seigneur puisse descendre pour confirmer que Dieu est dans la chose. Nous l'avons lu. Si la première alliance avait déjà une gloire qui disparaissait, combien plus la deuxième alliance révélera-t-elle la gloire de Dieu, manifestera-t-elle la gloire de Dieu qui ne disparaît pas, qui demeure. Dans la première alliance, il y avait la condamnation. Nous sommes heureux que la condamnation ne soit pas restée, mais que la grâce de Dieu ait été manifestée par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous sommes donc heureux que la première alliance ait rempli son rôle en nous prononçant la condamnation. Mais c'était une chose qui passait. Mais ce qui s'est passé en Christ ne passe pas. C'est ce que nous emportons avec nous du temps dans l'éternité. C'est l'œuvre de Dieu dans chaque cœur individuel. Et je sais que Dieu est prêt à donner sa confirmation et à laisser venir sur nous l'onction de son Saint-Esprit afin que nous soyons saisis du plus petit au plus grand par la puissance du Saint-Esprit. Que quelque chose se produise ici dans cette salle, qui puisse glorifier le nom du Seigneur, confirmer sa parole et nous aider, nous qui sommes réunis, rassemblés ici une fois pour toutes. Que Dieu nous bénisse tous, que nous soyons une lettre ouverte lue par tout le monde, que nous ayons tous la même confiance et la même espérance en lui, que toutes les promesses de la nouvelle alliance, sont contenues dans ce ministère de réconciliation. Et pas seulement cela, mais aussi les promesses de l'ancienne alliance. Vous savez, il y avait une partie dans l'ancienne alliance, c'était la loi. Il y avait la deuxième partie, c'était toutes les promesses de la grâce de Dieu qui viendraient sur ceux qui croiraient au Seigneur Jésus-Christ. Et il est écrit que ceux qui n'étaient pas mon peuple seront appelés fils du Dieu vivant. Et ceux qui ne me cherchaient pas, je me laisserai trouver par eux. L'Ancien Testament ne se résume pas à la loi et à la condamnation. Ce n'est qu'une partie. Il y a des paroles d'alliance qui ont été prononcées, des promesses qui ont été tenues lors de la première venue du Seigneur et qui sont encore tenues maintenant lors de sa deuxième venue. Et nous en sommes reconnaissants. Et nous nous souvenons que le Seigneur, dans toute sa grâce, a montré ici les deux arcs-en-ciel qui étaient tendus en diagonale au-dessus du bâtiment et qui formaient ici une croix à l'avant. Et il était dit, j'ai réuni toute la plénitude de mon alliance en ce temps, en substance. Qu'est-ce que c'est? La première alliance, la deuxième alliance, dans la croix de Golgotha, toute la bénédiction que Dieu a promise du début à la fin. Que devons-nous dire à ce sujet? Nous ne pouvons que dire, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toute ta grâce. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant ta face car tu es un Dieu saint, en présence duquel seule la sainteté peut subsister. Puisse-t-il nous aider, nous bénir, toucher nos cœurs et nous donner un profond désir d'expérimenter sa grâce et de recevoir la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et prions. Remercions-le pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera encore. Que personne ne reparte les mains vides. Que chacun reçoive de ses déclarations, reçoive de sa parole ce dont nous avons besoin, ce que nous devons avoir dans ce temps, en ce moment. Car dans sa parole se trouve tout ce que chacun devrait avoir. Dieu est présent. Nous sentons sa présence. Il est ici pour confirmer sa parole. Il est ici pour bénir. Alléluia. Remercions ensemble le Seigneur. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Ah Seigneur, cette année touche à sa fin. Nous regardons en arrière, nous pensons à qui nous avons été une bénédiction, à l'impact de nos paroles. Ô Seigneur, puisses-tu accorder la grâce au Dieu que ton esprit règne au sein de ton peuple, comme nous l'avons lu et entendu à maintes reprises. Tu as toi-même dit, mon esprit règne au milieu de vous. Alléluia. Que tout soit opéré par ton esprit. Tous les dons, toutes les instructions, tous les enseignements, donc, quoi qu'il puisse arriver, que cela se fasse par ton Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tu pourras achever ton œuvre. Maintenant aussi, tu es proche. Alléluia. Oint tous tes vases. Consacre ton peuple au Seigneur pour le service, afin que tous, le visage découvert, nous fassions resplendir ta gloire. Annoncions ta parole, révélions ta volonté, accomplissions tes œuvres aussi longtemps que nous serons ici sur terre. Alléluia. Que les hommes puissent voir le Christ en nous, dans nos paroles, nos voix et notre nature, dans tout ce qui se passe. Nous te le demandons au nom précieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, attire-moi plus près, Sauveur. Rends-moi saint comme tu es, car tu es si riche. Oh, inonde-moi de ton amour. Imprime ton image dans mon cœur. Rends-moi pur. Attire-moi plus près de toi, Sauveur. Rends-moi saint, comme tu es si riche. Attire-moi plus près, toi, le Sauveur. Rends-moi saint, comme tu es si riche. Oh, inonde-moi de ton amour. Imprime ton image dans mon cœur. Imprime ton image dans mon cœur. Profondément dans mon cœur.